Cube Radio.
Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, le meilleur ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez lefondsftq.com/entreprise.
Salut tout le monde, Étienne Crevier à la barre de l'animation pour Les Dérangeants qui vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle saison. On est dans les coulisses de la prochaine saison qui s'en vient, Les Dérangeants, saison 6. Et on a quelques tours dans notre sac, quelques nouveautés à vous annoncer, juste 2-3 trucs, rien de tel. Mais première nouveauté, en fait, Carlo, on change l'animation.
Oui, moi, je suis pas une nouveauté, par exemple.
Non,
je suis pas depuis le début. Oui, on a décidé de prendre en charge nous-mêmes l'animation cette année. Parce que ça faisait 5 ans qu'il y avait une animation qu'on disait professionnelle avec nous. Puis là, on a décidé de faire ça nous-mêmes puis de mener ça à un autre niveau.
On se faisait pas confiance, en fond.
Je pense que c'est ça. Là, on a pris de la maturité. On a passé 5 ans devant le micro, 65 épisodes des Dérangeants. On a commencé à comprendre comment ça se faisait animer. Puis comme on le fait en vidéo cette année, bien là, on le fait nous-mêmes.
Ben écoute, donc on salue Mathieu Charret, saison 1. Patrick Marcellet, saison 2-3.
Ouais.
Catherine Beauchamp, 4-5. Et donc, saison 6, Les Dérangeants qui vont s'auto-animer. C'est quand même exceptionnel. Dans les autres nouveautés, en fait, qu'on veut annoncer aussi, ben, c'est le vidéo. On est enfin dans nos propres décors.
Un super beau décor, soit dit en passant, dont on est super fiers. Là.
Puis on peut l'annoncer, vu que c'est les coulisses. En fait, on enregistre dans les studios de Grande. Et merci beaucoup, en fait, à Cathy Marquis qui assure notre direction artistique pour cette saison-ci. En fait, c'est grâce à elle qu'on a vraiment pu mettre ça en place. Mais avant toute chose aussi, avant de continuer dans les scoops, en fait, on va annoncer les nouveaux Dérangeants. Et donc, on se retrouve immédiatement.
Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici les Dérangeants.
C'est officiel, le début de la nouvelle saison des Dérangeants. Bonjour la gang. Hein?
Salut.
Merci de vous joindre à nous. En fait, à tout le monde en parle, ils ont Diane qui amène le vin. Là, cette fois-ci, c'est Cathy, donc. Mon Dieu, Cathy.
Bonjour. J'amène un champagne, Veuve Clicquot, pour célébrer votre première. Félicitations.
Merci.
Et bonne saison,
merci,
la gang.
Merci.
J'ai l'impression qu'on gradue, en fait. C'est vraiment exceptionnel. Est-ce que vous m'accompagnez là-dedans?
Non.
Il n'y a personne qui est sans alcool.
Je m'en occupe, Étienne, pendant que tu...
Écoute, vas-y donc, mon cher.
Pas venir avec ton sabre.
Mais non, ben non, pas cette fois-ci. En fait, d'entrée de jeu, nouveau décor, on l'a déjà dit, nouvelle animation, nouveau Dérangeant, nouveau sponsor aussi. Donc, avant de tomber dans le vif du sujet, il faut quand même souligner, merci beaucoup au Fonds de solidarité FTQ qui a vraiment cru en nous pour
Absolument.
Cette nouvelle saison, nouveau concept. Le quartier général de l'Audace du Cégep de Saint-Jérôme qui renouvelle, en fait, pour cette nouvelle saison. Et on s'ajoute aussi Blue HF, cabinet d'avocats, également, qui va nous sponsoriser pour toute cette saison-ci. Non.
Oh!
Wow. Je l'ai timé.
C'était...
Fallait que tu arrêtes de parler.
D'une main de maître. Donc, pour ceux qui nous écoutent en version audio, on se verse un délicieux verre de champagne. Et donc, c'est en même temps le moment de vous inviter à venir nous écouter sur notre nouveau channel YouTube, puis pour cette nouvelle saison. Donc, j'aurais envie de faire ça à bâton rompu, en fait. Dominique, pourquoi d'avoir accepté Merci. De te joindre comme Dérangeant?
Bonne question, en fait. Je pense que j'ai adoré mon épisode, définitivement. Je pense qu'on est tous tombés, les trois, un peu en amour avec le format durant l'épisode. C'était vraiment très, très agréable.
D'ailleurs, nos trois nouveaux Dérangeants, c'est trois invités de la saison 5.
On est
sont tombés en amour avec le format et avec l'approche des Dérangeants.
Certains diront qu'on n'est pas allé chercher ben loin. Hein?
donc très agréable. Je pense aussi, pour moi, le titre du podcast, c'est quelque chose qui m'a accroché, Les Dérangeants. Je pense que c'est important un peu de déranger dans l'écosystème entrepreneurial, dans ce milieu-là. Et je pense qu'il faut faire un petit peu différent de ce qu'on voit à certains moments dans les émissions de télé qu'on connaît tous, etc. Donc j'avais envie d'ajouter un petit peu ma sauce, si je peux le dire comme ça, venir brasser un peu, venir déranger un peu. Et c'est vraiment pour ça que ça m'a fait un grand plaisir de me joindre à l'équipe.
Ben écoute, merci. En fait, c'est vrai que tu as ta chronique dans le journal Les Affaires où est-ce que souvent tu bâches un peu sur l'entrepreneur star system, hein? L'espèce d'entrepreneur influenceur que t'aimes pas ça. Hein? Je pense que ça vient te chercher à l'intérieur.
En fait, je pense qu'on est beaucoup dans l'image. Hein, c'est quand même paradoxal parce qu'on est en train de faire un podcast. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un côté, je donne des conférences, etc. Mais je pense que malheureusement, il y a une image dans énormément des médias comme quoi l'entrepreneuriat, c'est facile, comme quoi l'entrepreneuriat, c'est que de la réussite. Et pourtant, ben, la plupart des entrepreneurs ont beaucoup plus échoué, beaucoup plus souffert, beaucoup plus eu des défis de santé mentale qu'on va sûrement parler durant la saison. Donc, c'est pas l'aspect que les entrepreneurs soient dans les médias qui me dérange, c'est beaucoup plus la façon qu'on présente les entrepreneurs. Par exemple, des émissions de télé dans lesquelles on fait des chèques pour à peu près n'importe quoi. Et sans vraiment aussi être capable de dire ça derrière qu'il y a énormément d'entreprises qui ont participé à ces types d'émissions-là, qui ont fini en faillite, qui ont eu des échecs par la suite. Donc, je pense qu'on a besoin de faire la promotion de l'entrepreneuriat, mais un peu plus peut-être dans l'humilité et la sincérité de c'est quoi vraiment être entrepreneur.
Hey, j'aime ça, mais je vous fais un cheers, la gang.
Santé,
hey. Santé à tous. Santé. Oh! Merci d'avoir accepté le défi.
Cheers.
Santé.
Santé. Ah, c'est bon. Fait que je vais rebondir. En fait, Anne, même question. Pourquoi avoir accepté le défi de devenir une dérangeante?
Bien, écoute, quand j'ai su que Dominique se joignait, je me suis dit que c'était une occasion extraordinaire de venir l'écœurer. Fait que ça, c'est sûr que ça a été un élément super vendeur. Mais non, au-delà de ça, je partage un peu, tu sais, la même vision que Dominique. Je pense que l'entrepreneuriat, il y a le côté sexy, oui, mais il y a aussi ce qui est super difficile, puis il y en a pas de facile. Puis moi, c'est vraiment ce qui me motive dans la vie, c'est d'expliquer ces histoires-là, de donner des conseils, puis d'essayer d'épauler les gens au travers de leur propre parcours entrepreneurial. Fait que c'est ça qui m'a comme animée, là.
Puis on se le cachera pas, tu l'as pas eu facile nécessairement dans ton parcours.
Oui, exactement. Fait que, tu sais, je pense que j'ai beaucoup à contribuer à cette conversation-là, mais en même temps, je veux aussi l'entendre des autres, puis je veux que ça soit ça qui ressorte cette saison-ci, qu'on entende les histoires difficiles, tu sais, qu'on entende le struggle, puis qu'on comprenne aussi comment tu peux transformer ça en opportunité tout le temps.
Mais c'est intéressant parce que moi, ce que je connaissais de ton histoire, c'était la vente de l'entreprise aux géants américains pour des centaines de millions.
Oui.
Mais il y a toute une histoire derrière qu'on ne connaît pas.
Ça prend plus qu'un verre de vin pour la raconter. Il y en a, je vais vous donner des petites bribes au fil de la saison.
C'est bon, fait qu'on va rapier, c'est ça, faire un épisode spécial au final.
Oui, c'est ça.
Qui va parler de toute l'histoire de l'MNTI. Puis en fait, Louis-François, petite blague à part, l'idée de relancer la saison 6, tu le sais peut-être pas, mais c'est venu de toi, Louis-François.
Ah non, je ne savais pas.
Oui, quand tu... Après ton épisode de la saison 5, tu nous as écrit ou appelé.
Oui.
Puis tu as dit, hey, j'aimerais ça participer plus. Je vais en faire plus. Y a-tu un rôle que je peux faire? Là, j'ai fait, ah, si oui, on le fait.
Ouais.
C'est comme... Fait que t'es le seul qui a postulé.
Ça a été l'inflexion, le catalyste.
Dans cette image publique-là, médiatique depuis longtemps, puis les gens voient pas ce que je fais comme business en arrière. Puis c'est souvent, je dis pas que c'est une frustration, mais les gens vont faire, on t'a pas vu à TV depuis longtemps quand je travaille plus que j'ai jamais travaillé. Ouais. Mais ça, c'est les dessous de l'entrepreneuriat, un petit peu comme tu disais, où on chaîne souvent sur plein d'images, mais le struggle est pas imagé du tout, puis c'est notre réalité du day-to-day en affaires.
Moi, je pense qu'il était juste tanné de se faire appeler le chum de Patricia Parkin. Les tribunes.
Il y a ça.
Il est rendu où, Louis-François? On le voit plus, là.
Mais on va en parler tout à l'heure, mais Louis-François, c'en est un où on je pense que dans les médias, on entend parler de chez Cheval, les restaurants, bars, cafés que tu as sur la Rive-Sud. Mais Louis-François Marcotte, il gère pas mal plus que ça, puis c'est vraiment impressionnant. Puis, en tout cas, on va faire un tour de table tout à l'heure, mais j'ai hâte que les gens voient l'ampleur de ton implication entrepreneuriale.
Puis en même temps, je pense qu'on doit souligner la non-présence de Marie-Claude Duquette.
Oui.
Qui est notre sixième dérangeante.
Qui est toujours là, plus que jamais.
Mais qui, en ce moment, je pense qu'elle est en train de donner naissance à un vrai bébé.
C'est oui.
C'est quand on dit nos entreprises, c'est nos bébés, mais là, elle, c'est comme, c'est un vrai humain là, qui est en train d'accoucher. Donc, elle s'excuse de ne pas être avec nous. Je pense qu'elle a la meilleure raison au monde, bien honnêtement.
Mais pour pouvoir suivre, ça, tu sais, être une femme en entrepreneuriat, c'est déjà peut-être certainement plus difficile qu'un homme. Être une mère en entrepreneuriat, c'est next level. Les pères, c'est dur, mais les mères, c'est autre chose.
Puis j'avais peur que tu ailles dire qu'on pouvait suivre son accouchement, mais quand
non, j'étais pas là. J'étais plus suivre l'entrepreneur, jeune maman, dans le processus, qui est quelque chose de tellement intéressant, mais qui va venir avec une tonne de défis pour elle, c'est clair.
Mais je vais rebondir sur ce point-là pour vous demander aussi individuellement, si vous aviez un rôle, un casting à incarner comme dérangeant, comment vous le décririez? Est-ce que vous avez pensé, mettons, l'entrepreneur TDAH, souvent, tu as écrit quelques livres, on ne se le cachera pas, sur le sujet. Tu veux-tu encore spinner là-dessus? C'est-tu un tag que tu aimes? C'est-tu un branding qui t'accroche?
C'est pas nécessairement un branding. Je pense que la santé mentale n'est pas un branding. C'est quelque chose qu'on devrait tous parler et plus incarner. Fait que définitivement, je me suis souvent été le porte-étendard un peu d'annoncer en pleine pandémie que je pleurais dans mon auto avant de rentrer au bureau. Donc, j'en ai parlé beaucoup. Par contre, je dirais que je me vois plus comme le challenger, plus comme la personne, justement. Puis c'est le titre, c'est ça, c'est les dérangeants. Mais je me vois définitivement comme le dérangeant à l'intérieur de
dérangeant
ça.
Dérangeant-chef.
Je trouve qu'il y a un peu trop de consensus à certains moments, qu'on a besoin de brasser les idées. Puis c'est ça l'entrepreneuriat. Je regarde, je suis souvent en total désaccord avec mon équipe de direction. On finit toujours par se raccorder. Mais souvent, je suis inquiet. Quand on pense tous pareil, quand on commence à tous être sur la même longueur d'onde, il y a sûrement un angle qu'on n'a pas vu. Puis moi, j'ai envie qu'on aille chercher ces angles-là, peut-être, qui sont un petit peu plus cachés.
J'aime ça. Fait que Dominique Gagnon, le fauteur de troubles.
Tout à fait.
Parfait. Anne Martel.
C'est une bonne question. Écoute, moi, je pense que ce qui a toujours animé mon parcours, c'est mon intérêt pour les gens. Fait que moi, c'est le cœur, je pense. C'est, ça serait ça, mon casting.
La dame de cœur.
La dame de cœur.
La main de fer dans un... Non, la main de fer dans un gant de velours.
Exact.
Hein. Ah, j'aime ça. Puis toi, François?
Bien, moi, j'ai découvert dans les années un volet social dans les business que je n'avais pas abordé avant en travaillant avec des jeunes différents, des autistes dans notre cas. Puis ce volet-là social, comment tu fais pour le mettre en valeur? Mais le rendre réel et adapté à tes business, je veux dire, jusqu'à rentable pour que ça fonctionne.
Exact. Mais en fait, je rebondirais là-dessus pour vraiment plus, comment je pourrais dire, approfondir ton parcours puis vos parcours de chacun. Qu'est-ce qui t'anime au day-to-day? Tes semaines sont remplies comment? Tu travailles sur quoi ces temps-ci, Louis-François?
Bien là, je suis sur un gros projet d'usine actuellement où je ne pensais pas aller dans l'alimentaire. C'est une curve qui est arrivée puis on a fait l'acquisition d'une usine actuellement. On prend possession
d'une cœur qui est arrivé pour faire l'acquisition
d'une parce que j'ai fait des restaurants. Non, mais c'est j'ai fait des restaurants toute ma vie depuis 20 ans jusqu'à faire du coffee shop. Puis là, je me ramène à un offre qui rentre de faire l'acquisition d'un truc alimentaire, mais qui est industriel, qui est beaucoup moins sexy que faire des restaurants parce que c'est hot des restaurants, c'est le fun, c'est un beau lifestyle, mais c'est difficile. Probablement que je vais avoir sa bonne traque actuellement. Fait qu'il y a peut-être un peu de maturité dans cette curve-là.
Fait que t'as l'usine alimentaire dans le coin de Saint-Jérôme, si je me trompe pas, qui s'en vient. T'as Cheval, qui est toujours actif.
Ouais. Deux emplacements maintenant.
Ouais. Deux emplacements. T'as le café.
Oui. Puis je suis associé dans d'autres restaurants, mais je suis
back-end.
Exactement.
Dans combien de restaurants t'es associé?
Deux autres. Oui.
Quand même.
T'avais pas une micro-brasserie?
C'est ça que je disais. Ah, c'est sûr.
Restaurant, micro-brasserie. Ouais,
c'est ça, exactement.
Tout pareil, finalement. Ouais. Puis, as-tu des livres qui s'en viennent?
Il y a un livre sur la table, mais que là, actuellement, c'est un livre de contenu un peu différent de ce que j'ai fait. J'ai fait 9 livres de recettes. Puis celui-là, ben c'est recettes, mais pas de photos. Plus sur l'histoire un peu. Tu sais, il y a un bagage que tu as à un moment donné de dire, OK, là, je peux sortir des recettes que j'ai faites, que j'ai trippées, qui sont pas dans les livres, que j'ai pas mis en contenu nécessairement, ou que j'ai trippé à refaire. Là. Fait que avec un peu l'histoire de la synthèse de ce que je fais jusqu'à aujourd'hui.
OK, c'est très cool. Fait que quand tu dis sur la table, c'est que ça s'en vient, mais c'est pas...
C'est zéro dans le presse-papier. c'est parlé, c'est entendu, mais c'est pas fait.
OK, génial. Puis sinon, il y avait aussi une émission de télé.
Oui, un show TV qui me suit depuis 4 ans. Là, c'est Tout.TV. Donc, on a fait Aide demandée. On aide 3 restaurateurs par année. Donc, je les suis dans leur quotidien pour redresser X, Y, Z, situations d'affaires dans lesquelles ils sont pris. La pandémie a rentré là-dedans. Fait qu'on a eu à gérer la pandémie dans ces shows TV-là, qui est un bel accident parce que ça a amené plein d'impondérables qu'on savait pas, qu'on voyait pas venir, que moi, je gérais avec mes business, mais que j'avais à aider d'autres dans leur cas. Puis là, on fait une 4e saison qui est le titre de travail, c'est Investisseurs demandés parce qu'ils me suivent dans les investissements que je fais.
Puis à quel point tu dirais que ce show-là est la réalité? Tu sais, on parlait du temps système entrepreneurial. Est-ce qu'on va vraiment dans ce show-là avoir la vérité?
Ouais. Oui, tout à fait, parce que c'est ce qui en fait, c'est la productrice de ce show-là, à la base, elle disait les gens savent pas ce que tu fais dans la vie. Mm. Puis c'est à partir de cette ligne-là. Puis j'ai fait, t'as raison, mais tu sais, moi, je le vois pas, j'étais pas dans cette image-là. Je travaille mes affaires sans être dans l'œil du public, puis quand tu mets une image puis tu vois en caméra, tu fais OK, c'est ça ma réalité. C'est vrai que c'est ça que je fais, puis c'est pas forçant. Fait que pour moi, c'est le fun, les gens t'en parlent, puis tu fais ouais, c'est cool, vous avez vu ce que j'ai fait. Mais avec beaucoup d'humilité, de dire OK, on a trippé à faire relever ce restaurant-là, puis ça a fonctionné, puis de voir des résultats, là, c'est très tangible, tu sais. Des fois, tu travailles avec des gens, puis avec le background que j'ai, de donner 2-3 trucs à un restaurateur, puis ils te rappellent la semaine d'après, ils disent mes chiffres sont hot, je fais. OK, ça a marché.
Ça a de l'impact. Mmh.
Ouais, ouais.
Est-ce que tous les restaurants qui ont passé sont toujours en vie?
Il n'y en a pas de fermé à date.
C'est meilleur que les statistiques.
Oui, c'est ça.
Fait qu'on touche du bois, même si c'est pas du vrai bois autour
c'est
de
nous. Il y en a du vrai bois là-dedans.
Bon, donc, c'est Cathy qui fait signe à l'oreille. On me dit c'est du vrai bois. Good job.
Et voilà.
Puis, je clôturais là-dessus, en fait, François. Dans ton parcours jusqu'à maintenant, ça a été quoi? Comment je pourrais dire? Combien de faillites t'as faites, en fait?
J'ai pas fait de faillite. Mais j'aime dire que il y a des contrats puis des business qui se ferment par restauration, particulièrement, il faut accepter d'arrêter. Mm-hmm. Puis ça, des fois, on oublie ça. Les gens pensent que c'est des échecs. Moi, je trouve que c'est pas des échecs, c'est des apprentissages. Puis faut apprendre. Puis ça, faut aussi inculquer ça à nos jeunes, de dire, même s'il y a un cycle d'école, de business qui se termine, arrête-les au bon moment, ou du moins dans le moment où il faut opportun, puis d'en être fier, parce que c'est toujours un apprentissage. J'en retire du positif, tu sais. Même si c'est pas toujours le fun, d'arrêter souvent, c'est une solution.
Mais c'est de lire la vague. T'as surfé la vague, cool. Mais maintenant, la vague casse, à l'arrêt, ben sort.
Ah, mais c'est dur. Tu sais, on en parle facilement, mais c'est super difficile.
C'est difficile à faire, c'est d'arrêter un projet.
Ouais.
Quand on est quelqu'un de cœur, là, c'est tellement dur parce qu'on aime ce qu'on fait, on veut, on y croit à la mission, on y croit à ce qu'on fait. Des fois, le marché, au sens large, j'y crois plus, ou ça marche plus, ou ça nécessite d'autres investissements. Et moi, je pense que c'est les décisions que j'ai le plus de difficultés à prendre, c'est d'arrêter. D'ailleurs, j'ai pas arrêté les dérangeants.
Je pense, Étienne, tu l'as dit tantôt, on appelle malheureusement souvent nos entreprises nos bébés.
Oui.
Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Mais parce que la réalité d'une entreprise, c'est pas un enfant. Tu sais, plusieurs d'entre nous ont des enfants autour de la table. Moi, souvent, quand je regarde mes filles, je me dis, c'est pas ça, mes entreprises. Mes filles, évidemment, je vais les aimer toute ma vie. Mes entreprises, moi, dans mon cas, souvent, je souhaite les vendre. Mais je pense qu'on doit aussi avoir ce sentiment-là, d'arrêter peut-être d'être trop attaché émotivement, parce qu'énormément de gens vont s'identifier à leur entreprise. Puis une faillite, c'est aussi ce qui amène énormément de burn-out et de problèmes, de dépression par la suite, parce qu'on est tellement émotif envers l'entreprise que souvent, on devient peut-être un peu trop fusionnel avec celle-ci. Puis je pense que c'est un des risques, puis un sujet, évidemment, qu'il faudra parler. Cet aspect-là d'appeler nos entreprises nos
faillite,
bébés.
C'est négatif comme mot, car ça ne l'est pas toujours. En tout cas, on en parlera de ça.
Mais je pense qu'on a un épisode sur cette saison-ci qui va toucher ce point-là. Mais c'est un excellent. Tu mets la table, Dominique, pour justement ton parcours. T'en as eu quelques-uns des bébés. T'en as deux vrais, tangibles, humaines.
Deux princesses.
Mais depuis l'âge de 14 ans, en fait, tu bâtis des bébés entreprises.
Effectivement. Au départ, en fait, je les ai appelés mes bébés, qui est peut-être un des problèmes. J'ai fondé ma première entreprise à 14 ans, donc deux. En fait, donc j'ai fondé une maison de disques à ce moment-là, qui est un des plus gros producteurs de spectacles de punk rock au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le plus capitaliste des punks, je vous avouerai que...
Ça, c'est très entrepreneurial, le plus gros de la région.
Puis je faisais de l'économie circulaire. Aujourd'hui, je peux en parler. En fait, j'avais des gens qui confisquaient la marijuana aux gens qui en fumaient et qui lui revendaient le même stock dans des baguettes différentes. Donc, très rapidement, j'ai découvert que j'avais un côté entrepreneurial fortement développé. Je me suis mis aussi à créer des sites Internet, donc j'ai commencé à faire des sites web. J'ai eu la chance de vendre ma première entreprise à 16 ans. Pour un peu plus de 70 000 $, ce qui est énorme à 16 ans. C'est complètement débile de penser à ça. Et par la suite, j'ai toujours dit que l'entrepreneuriat m'a tenu loin de ce que je pourrais appeler la rue, mais aussi d'être tannant. Donc, la réalité...
J'aurais pu tomber du mauvais bord.
J'ai travaillé un petit peu dans les bars à ce moment-là, évidemment, dans l'événementiel. Donc, j'ai toujours eu une personnalité atypique, un trouble avec l'autorité, mais l'entrepreneuriat m'a permis de rester « grounded ». Donc, j'ai toujours été entrepreneur depuis ce temps-là. Je suis rentré au bac en communication publique parce que les trois universités où je voulais aller m'ont refusé, évidemment. Et quand je suis rentré, après deux semaines, je me disais, il faut créer une autre entreprise. J'ai créé Piranha, qui est devenu un des plus gros développeurs d'applications mobiles au Canada. C'est nous qui avons fait des applications de Desjardins, le virage numérique du devoir. On a fait des centaines d'applications. On avait un peu plus de 100 personnes. J'ai vécu une fraude, j'ai tout perdu. Donc, t'en as parlé, combien de faillites? Moi, j'ai fait une proposition consommateur qu'on peut appeler
c'est
une faillite.
Prêt, ouais, pas loin.
Ça fait partie de la famille, je te dirais, parce que mon crédit, effectivement, je suis passé, c'est quand même drôle, là, je suis passé de à pas avoir le droit d'avoir une carte de crédit à un banquier privé à la banque en une journée d'intervalle quand j'ai terminé ma proposition. Mais Piranha a été une aventure incroyable, mais très difficile sur la fin. Donc, évidemment, suite à une fraude, à l'aspect de faire trop confiance, j'ai perdu mon identité, perdu l'entreprise. Je l'ai vendu par la suite. Ça l'a aussi mal terminé à ce moment-là. J'ai tombé, mais je me suis relevé. Donc, depuis ce temps-là, j'ai fait 6 ou 7 entreprises. J'ai vendu dernièrement Rose Bouddha, où je suis devenu un actionnaire avec les fondateurs de Frank & Oak dans le monde de la mode. Mais principalement, mon day-to-day, c'est d'être fondateur et président depuis 5 ans de Connect & Go, où on fait des bracelets intelligents et des systèmes de gestion des attractions.
Tu es fondateur depuis plus que 5 ans.
Oui. On a changé, en fait, de rôle. La réalité, j'ai fondé l'entreprise il y a 10 ans. Donc, on fête notre 10e anniversaire cette année, des 5 premières années dans lesquelles on était un joueur dans l'événementiel. C'était mon associé qui roulait le show. J'avais d'autres entreprises, moi. Donc, j'étais vraiment plus un investisseur semi-actif dans l'entreprise. Et quand, en fait, la pandémie est arrivée, mais aussi une ronde de financement, j'ai décidé de prendre un rôle plus prépondérant et devenir CEO de l'entreprise à ce moment-là, que je pilote en ce moment à travers d'autres implications. J'enseigne l'entrepreneuriat parce que c'est très important pour moi à l'ETS. Je suis maître d'enseignement, mais aussi personne qui s'occupe du Santec. Donc, j'ai travaillé au Santec comme entrepreneur en résidence. Je suis impliqué chez Zoo, qui est l'incubateur de Guy Laliberté, sur le conseil d'administration.
On est dans le name dropping, là.
Je suis un classique hyperactif. En fait, parfois, quand je fais la liste, je me fatigue moi-même. Je me dis, OK, tu dors combien d'heures? La réponse, c'est 4. Je dors très, très peu. Mais oui, je suis très, très impliqué. Le focus, c'est pas pour moi. J'ai fini par l'accepter. Ça a été un long cheminement.
Tu as dit, c'est l'entrepreneuriat te gardait groundé.
Oui.
Qu'est-ce qui te garde groundé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est le lien avec les clients, la nécessité de leur livrer un bon produit qui fait que... Mais parce que tu peux vite divaguer, là, dans ta personnalité, tu l'as dit au début, qu'est-ce qui t'accroche tant que ça dans l'entrepreneuriat?
Première chose, je pense qu'Anne l'a dit tantôt, c'est le monde. Je pense que j'aime foncièrement les gens, j'aime bâtir des équipes, j'aime ce côté-là. Et l'autre côté, c'est que j'aime un peu déranger les gens, puis je pourrais dire le mot faire chier. Mais dans l'entièreté de mes entreprises, j'ai généralement été positionné comme la personne qui venait challenger les géants. J'ai
l'impression... Les aimes, mais t'es fait chier.
En fait, moi, je les aime pas, eux, je les fais réellement chier, mais j'aime les faire chier. Donc, c'est un peu plus ça qui est dans mon process. Chez Connect & Go, aujourd'hui, on vole des clients à des compagnies qui valent 1 milliard en bourse. On sait qu'on est en train de bouleverser le marché. Et je fais partie des gens qui, je pense, sont très ambitieux. J'ai pas envie de faire une entreprise qui va faire 2-3 millions. La réalité, j'ai envie de faire des coups de circuit, j'ai envie de faire des choses qui vont marquer. J'ai envie d'avoir un legacy, donc que les gens se rappellent aussi de ce qu'on a bâti. Oui. Pour moi, c'est très, très important, ce côté-là. Donc, je dirais que c'est ce qui me ground. Ce qui me ground aussi, c'est d'être occupé. Je dis souvent que dès le moment que j'ai du temps, je fais du trouble. Donc, l'aspect d'être très, très occupé me ground définitivement énormément.
Comme les gens qui te dérangent à l'école. Là. Quand ils n'ont rien à faire, ils sont dérangeants.
C'est sûr.
J'étais à l'école, c'est ça, définitivement.
C'est lié à la douance aussi.
C'est lié à la neuroatypicité. Tu sais, je pense que définitivement, on peut se donner des étiquettes. Tu sais, ça fait vraiment pas longtemps que je sais que je suis doué. Je déteste le mot doué, là, mon dernier livre, parce que je trouve qu'on a l'air fraîchi.
Mais c'est pour ça que j'ai dit exactement ce mot-là.
mais oui, je pense que je suis différent. Je pense que la plupart des entrepreneurs sont différents. Je suis en train de sortir mon quatrième livre qui s'appelle « Et si l'entrepreneur rendait fou », qui est un peu ma quête d'essayer de comprendre est-ce que je suis devenu fou parce que j'étais entrepreneur ou je suis devenu entrepreneur parce que j'étais déjà fou. Et en fait, je vous dirais que là, je suis rendu presque à la conclusion du livre. La réalité, c'est que c'est un peu des deux. Mm-hmm. Je pense que les neuroatypiques ont beaucoup plus de chances de devenir entrepreneurs.
Ben, dis-moi pas la fin, j'achèterai pas d'abord.
Je te dis pas la fin.
Mais parlant de coup de circuit, en fait, ça, ce qui m'amène à Anne, ton histoire qui était, je pense au Québec, un des plus gros coups de circuit. T'es la femme entrepreneur qui a levé le plus de financement de capital de risque.
Ouais. Oui, ben, certainement au Québec, puis pendant à une époque au Canada, là, je ne sais plus ça a l'air de quoi, mais probablement
encore.
Il y a
beaucoup de gens qui lèvent en ce
moment. Oui, en ce moment, ça va se faire bien, je peux le garder pour une couple d'années encore. Mais oui, puis c'est drôle.
Mais c'est combien le plus?
Le quoi,
on parle
le plus?
De combien de millions levés?
On a levé 230 millions.
230
millions. Oui, tu sais. Pas 2 piastres.
C'est ça. Il y a des hommes entrepreneurs qui ont levé plus, mais femmes entrepreneurs, t'es dans le
top. Non, ça, c'est certainement, ça n'a pas été fait très
souvent. C'est pas votre propre catégorie.
Oui.
Très cool.
Oui, c'est ça. Ben, tu sais, écoute, tu peux toujours te réinventer, hein, la vie est ainsi faite. Mais...
Les Gémeaux ont fait maintenant des trophées hommes-femmes. Oui, peut-être que les entrepreneurs, ça va être ça un jour.
Oui, c'est ça.
Je souhaite.
Ben, en fait, ça existe, là, mais oui, c'est sûr.
Donc, à la base, mais Element AI, mais ça n'est pas parti là, en fait. L'entrepreneuriat, pour toi, ça a commencé vraiment plus tôt.
Bien, c'est drôle parce que j'écoutais ce que Dominique disait, puis moi, je me rejoins comme un peu à l'inverse de son parcours, en ce sens que moi, j'ai essayé de ne pas être entrepreneur toute ma vie, puis c'est comme si ça m'a rattrapé. Puis j'ai eu une grande quête d'identité pendant, mon Dieu, peut-être 20 ans, à essayer de trouver qui j'étais, parce que c'était pas encouragé, étonnamment. Je venais d'une compagnie, d'une famille qui avait une compagnie familiale, puis tout ça. Donc, ça faisait partie, pour moi, des possibilités. Puis, je me rejoignais beaucoup dans l'aspect un peu lifestyle aussi, d'avoir sa business, puis d'être son propre patron, puis tout ça. Mais en même temps, mes parents, c'est pas ça qu'ils voulaient que je fasse.
Ils t'ont pas poussé
ils ont poussé partout ailleurs.
C'est quoi l'entreprise familiale?
C'était une compagnie médicale, donc on distribuait là, des équipements là, pour faire des tests de son dans les cliniques, les hôpitaux. Puis éventuellement, moi, je l'ai repris. C'était ma première compagnie, je l'ai repris. J'ai commencé à faire mes propres produits, puis c'est là que je l'ai vendu quelques années plus tard. Mais c'est vraiment, j'ai été obligée de me battre pour la reprendre, cette compagnie-là. Ils ne voulaient juste pas me la laisser. Puis à un moment donné, oui, puis ça s'est passé un peu dans un cadre d'ultimatum. Où je me suis dit, mais si je ne pourrais pas faire ça, je vais aller faire autre chose. Là. Mais là, c'est l'heure que je m'investisse plus. Puis que.
Fait que tu demandes à tes parents, donnez-moi l'entreprise, sinon je mon cas.
Je ne l'ai pas eu gratuitement. J'ai super acheté, mais c'est ça. Puis mais essentiellement, c'est ça. Fait que j'ai dit là, c'est ce que je vois, voici comment je veux l'aborder. Puis si vous ne me laissez pas faire, moi, je vais aller faire autre chose.
C'est assez classique. Hein? Les reprises familiales, pour en avoir vu à l'école d'entrepreneurship de Beauce, il y avait beaucoup de reprises familiales. les histoires d'horreur de parents qui veulent pas quitter, de parents qui veulent pas vendre, de parents qui vendent mais qui veulent rester.
C'est
je pense
vraiment,
que définitivement, c'est commun.
C'est pas facile. Puis pour plein de bonnes raisons aussi, parce que les gens voient leur compagnie comme leur bébé. Puis souvent, tu es entrepreneur, puis je pense que nous, on essaie de se dire qu'il y a autre chose dans la vie, mais tu sais, la génération d'avant, ils ont vraiment tout investi dans leur compagnie aussi. C'est comme la première génération de richesse réelle. Fait que tu sais, c'est certain que, oui, fait que c'est certain qu'à un moment donné, ça veut tout dire pour eux. Puis t'arrives là, t'as 65 ans, 70 ans, plus de compagnie. Hey, qu'est-ce que tu vas faire parce que t'as travaillé 80 heures semaine toute ta vie? T'es pas joué au golf.
Ta business,
là.
C'est ta vie. Fait que t'as pas. C'est pas bâti sur
chose. Mon
père m'avait déjà dit laisse-moi pas à la maison, je vais virer.
Bien, c'est sûr. Puis ils peuvent être dangereux aussi quand tu fais ça, là, parce qu'ils commencent à acheter des affaires, puis ils pensent qu'ils peuvent faire d'autres compagnies. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est ça. Fait que dans ma quête identitaire, moi, j'ai vraiment juste essayé de ne pas être entrepreneur. Puis à un moment donné, je me suis dit non, c'est vraiment ça qui m'anime. Puis là, tu vois, après chaque vente d'entreprise, pas parce que c'était mes bébés, même si j'ai eu une relation très émotive avec mes compagnies, puis surtout avec les gens là, qui étaient dans ces compagnies-là. J'ai trouvé ça vraiment difficile parce que là, je me dis, mais là, je suis plus entrepreneur parce que j'ai plus de compagnie.
Mais c'est faux.
C'est faux. Mais c'est quand même comme ça que je me sentais. Puis là, tu sais, récemment, j'ai décidé là, d'explorer un peu du côté obscur de la force. Puis là, j'ai commencé avec Kira Capital. Puis tu vois, c'est ça. Le volet entrepreneurial est super important pour aller bâtir des connexions comme ça. Mais en même temps, je me dis, bien là, moi, je suis une ancienne entrepreneur. Non, je suis encore une entrepreneur. Je fais d'autres projets. J'ai plein d'activités. Mais c'est difficile quand tu commences à t'identifier à quelque chose de vraiment perdre cette identité.
Et pourquoi tu appelles ça le côté obscur de la force?
Bien, parce que c'est capital, c'est du financement. Fait qu'à un moment donné, je me dis, on a tous eu à un moment donné à lever des fonds. Puis c'est pas nécessairement, pour un entrepreneur, c'est pas vraiment la partie la plus fun là, de ton quotidien.
C'est là que
quotidien,
tu fais un peu comme des habits en général.
Oui, c'est ça. Fait que tu sais, comme t'aimes pas mal mieux t'occuper de tes clients puis de tes employés que d'aller lever de l'argent, là, je pense que, en tout cas, moi, personnellement, c'est ça.
Lui,
il est atypique.
Moi, j'aime bien cette portion-là parce que la réalité, il te donne les moyens d'aller beaucoup plus vite. Puis ce sera peut-être un sujet intéressant, hein, bootstrap. Lever des fonds, il y a énormément de débats et de questions là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend de ce que tu veux faire. La réalité, si tu veux changer le monde, il va te falloir énormément d'argent pour le faire. Et pour ça, il faut lever des fonds.
Fait que Dominique, Anne, Louis-François, on vous a quand même pas prévu une entrée en douceur. On voulait quand même vous cuisiner.
Boudoum. J'adore.
Oh, très bon. Très bon.
Merci, je l'avais préparé. Je l'avais pensé dans le
vide.
Le clavier, là.
On va trouver ça.
On vous a quand même prévu des petites questions tordues et quand même dérangeantes pour la nouvelle saison. Alors, Carlo, veux-tu y aller avec la première?
Absolument. T'en as parlé, Dominique, tout à l'heure. L'entrepreneuriat, c'est pas tout beau, tout rose. Moi, je veux savoir, c'est quoi la décision la plus difficile que vous avez prise puis comment est-ce que vous l'avez gérée?
Ça peut être long comme réponse, hein?
C'est pas facile à répondre.
Moi, j'en ai une que t'as déjà pris d'homme que je me souviens que tu m'as raconté.
C'est laquelle?
En pleine pandémie, quand il faut que tu annonces à tout le monde.
Ah oui, c'est sûr que la pandémie, ça a été horrible. Après, je pense que c'était une décision quand même raisonnée. Donc, la réalité...
Mais ça, c'est par après, tu dis ça, mais sur le coup, étais-tu raisonné? Étais-tu comme, elle est bonne, puis je la prends?
C'est un mix de désespoir puis d'esprit de survie. Tu sais, la réalité...
Mmh. Puis juste mettre les gens en contexte. En fond, la décision que tu as prise, c'était...
En fait, la décision que j'ai prise, c'est très rapidement de laisser aller 80% des employés de l'entreprise durant la pandémie. On devait faire les Jeux olympiques, le Super Bowl, la meilleure année à vie. La pandémie est arrivée. Hein. Il y a deux choses qui ont disparu, l'international et l'événementiel, ce qui était grosso modo ce qu'on faisait.
Connect and go.
Ce que j'ai trouvé plus dur, sincèrement, je pense que c'est la façon de le faire. C'est pour moi, être un entrepreneur, c'est se tenir debout. J'ai jamais laissé aller un employé sans être face à face à lui. Pouvoir le regarder dans les yeux pour avoir une discussion. Et là, j'avais ma directrice culture et talent qui m'alignait sur Zoom les rendez-vous de gens à qui je devais dire adieu. Il y a des gens là-dedans, évidemment, qui ont leur famille, qui ont leurs problèmes, etc., qui ont leur stress. Donc, je dirais que ça a été, pour moi, pas la décision. J'ai fait du redressement d'entreprise. Je pense qu'à un certain moment, laisser aller des gens, c'est aussi la job d'entrepreneur, puis c'est du courage. Ouais. Ce qui a été dégueulasse pour moi, c'est de ne pas pouvoir le faire de la façon qu'on devrait le faire à ce moment-là. Donc, ça a clairement été...
C'est combien de personnes? 80%, vous voulez dire combien de personnes?
Une cinquantaine de personnes, je dirais, à ce moment-là, qu'on a dû laisser aller, donc des gens qui étaient avec nous depuis 6 à 7 ans.
Non, mais imagine, t'es sur Zoom toute la journée, 50 personnes back-à-back à let go.
Ben, ouais. 5 minutes par personne.
Ils ont des amis, hein. C'est... Et puis, on pourrait en parler, tu sais. J'avais des gens là-dedans que je disais des amis, mais que malheureusement, ça a brisé l'amitié, qu'on s'est pratiquement jamais reparlé, même si je pense que la décision était justifiée, la décision devait se prendre. On serait mort sans ça. Aujourd'hui, on est plus fort, on est plus solide, mais je pense qu'aussi le courage de prendre cette décision-là très tôt, quand la pandémie est arrivée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Connect & Go est à peu près 2 fois plus gros qu'avant la pandémie et vraiment sur une courte période de temps.
Mais on a parlé tout à l'heure, l'entreprise qui est son bébé, de la même façon que nos employés, c'est pas notre famille.
Du tout.
Puis tous les entrepreneurs qui disent ça, c'est de la bullshit. Parce que le jour où il faut que tu laisses aller le monde, tu vas les laisser aller. La famille, tu la laisses pas aller. Je veux dire, tes enfants, c'est tes enfants. Tes parents, c'est tes parents. Mais les employés, c'est pas ça. C'est une équipe. Il y a peut-être d'autres mots que famille, mais la famille, c'est pas vrai.
Un entrepreneur qui dit ici, on est une famille, on se traite comme une famille, tu sais qu'il va t'abuser. C'est la décision la plus difficile que tu as prise.
Bien, on en parlait tantôt, mais moi, j'appelle ça vendre trop vite, mais vendre ma compagnie vraiment avant ce que je voulais être capable de démontrer.
Même avec les millions au bout?
C'est pas une question de millions, c'est une question d'honneur, mais c'est une question de réalisation personnelle. Puis quand tu vends trop vite, tu sais, c'est ça, c'est un rêve inachevé, tu sais. Puis c'est la pire chose parce que tu te demandes toujours ce que ça aurait pu être.
Puis Carlo, je pense qu'il faut faire attention. Tu sais, quand on voit les millions au bout, il n'en reste pas tout le temps de ces millions-là
c'est
au bout. La réalité...
Je n'allais pas contre l'impôt, là.
On parle qu'on a levé 230 millions. Je pense que l'entreprise a été vendue moins que ce qui a été levé ou un peu plus. Non. Mais ça reste que... Moi, je le vois comme entrepreneur. Il ne me reste plus tant de parts dans mon entreprise. C'est ça fait que j'ai levé énormément. Donc souvent, l'image publique encore, ça va être quoi quand je vais vendre? Ça va sûrement arriver un jour. Je vais annoncer un gros chiffre.
Mais c'est pour ça qu'on
personne
vend
va savoir ce qui reste.
Mais on vend parce qu'on se dit qu'il va rester...
C'est beaucoup d'images, là.
Des zéros au bout de la ligne, là.
Ben,
parfois,
des fois,
on vend
tu
parce
vends.
Qu'on est obligé.
Ben oui, c'est ça. Parfois, tu vends parce que tu n'as pas le choix. C'est la seule façon de survivre.
Ça va être un épisode en entier, la vente d'entreprise. Mais François, décision la plus difficile que tu as prise.
J'avais un groupe de restaurant. J'avais 28 ans. Chicane d'associés. Il est obligé de me racheter. Il faut que j'accepte le rachat.
Un shotgun.
Sort of, là. C'est un autre épisode, mais... mais ce changement-là, parce que c'était, pour moi, à l'époque, c'était un lifestyle, j'en ai parlé tantôt. T'as 200 employés, tu vis de soir, de fin de semaine, tu travailles tout le temps, t'as pas d'enfants, t'as pas de famille, tu vis dans un condo. Tu sais, c'était comme...
T'es un king aussi, là.
Ouais, tu roules, là. Puis tu dis, OK, là, je prends le chèque, je m'enlève. C'était comme un... C'était pas l'argent, c'était toute
l'identité. L'identité.
L'identité, le lifestyle qui changeait. J'ai des discussions avec mon avocat à ce moment-là, je me rappelle. Là, j'ai fait, j'étais pas trop conscient, mais c'était un deal breaker, mais c'était en même temps le plus bel apprentissage que j'ai eu.
Est-ce que tu étais une personnalité publique à ce moment-là?
Oui.
Est-ce que ça ajoutait.
Ah oui, tout jouait. Tu sais, une couille, t'es dans le Journal de Montréal. T'es tout le temps. C'est tout le temps une loupe de tu fais des moves d'affaires, mais qui sont répertoriés publiquement.
Comme du entertainment.
Exactement. Mmh. Tu fais page 2 du Journal de Montréal, t'as pas d'affaires là. Mais
non, on est d'accord.
Y a personne, mais ça sort bien pire que c'est.
Ah oui. T'avais une tonne de visibilité quand même, quand c'était positif.
C'est toujours ça, tu sais.
Mais... Qui nourrissait tes restaurants.
Ouais, c'est l'envers de la médaille.
Et en 140 caractères, désolé, je vous ramène, parce que on pourrait s'étaler pendant, je pense, des heures sur... C'est ça qui se passe quand t'as 5 entrepreneurs qui parlent ensemble. En 140 caractères, c'est quoi votre coupe Stanley comme entrepreneur? Pas pour vos entreprises, mais comme votre vie personnelle dans la job d'entrepreneur. Ça serait quoi la coupe Stanley? Anne, tu veux y aller?
Écoute, bonne question.
Tu es à 40 caractères.
Oui, c'est ça. Merci. fait que c'est ça. Coupe Stanley. My God. Je dirais bâtir des écosystèmes. C'est ça qui compte pour moi. Fait que réussir à faire ça, c'est le summum du succès.
J'aime ça. Louis-François?
Moi, c'est l'humain. C'est de prendre des gens qui n'étaient pas ce qu'ils étaient, tu sais, de les faire évoluer, là, de les faire croître, puis de les amener dans une position d'entreprise, de les amener associés quand ils ne faisaient pas ça du tout au départ. Fait que c'est ce bout-là humain, là, je vais dire l'humain.
Un catalyseur.
Oui.
Toi, Dom?
Je pourrais peut-être aller sur ce qu'Anne a dit. Pour moi, une des missions que je me suis donnée, c'est de changer le monde de l'éducation. C'est partie de ma prochaine mission. J'ai envie d'ouvrir des écoles pour les gens atypiques. J'ai envie de...
Je connais Carlo Checaro qui travaille dans une petite business.
Bonne chance pour ouvrir les écoles.
En fait, c'est ce que j'aime. C'est, je suis le classique personne qui se fait dire « tu réussiras pas ou c'est pas faisable, c'est là que je vais arriver ». Fait que je vois mon parcours scolaire, je vois mes deux petites filles. J'ai pas envie qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Donc pour moi, je pense pas que c'est l'entreprise, je pense pas que c'est l'argent, c'est les millions. Je pense que c'est de changer des choses que je trouve inacceptables. Le sentiment de justice est très, très important. Pour moi, le système est injuste en ce moment, il faut le changer. Donc, ça fait partie de, en fait, le processus d'amener mes entreprises à une plus grande valorisation. Ça va me permettre aussi, je pense, de, d'être un peu plus challenger et d'arriver un peu plus dans un secteur qui, malheureusement, bouge pas assez vite.
C'est-tu l'argent qui va te permettre de faire ça?
Je pense que l'argent aide. Je pense que l'argent, pour moi, l'argent, ça a été une longue discussion avec ma psy. Je déteste l'argent, j'aime la liberté. Et l'argent amène la liberté. Je pense que oui, il va falloir énormément d'argent pour être capable de brasser ce milieu-là. Mais je pense qu'il faut le brasser définitivement. Donc, ça fait partie de ma coupe Stanley. Si je réussis demain matin à sauver des petits Dominiques qui auraient pu mal virer, j'en connais énormément, ben pour moi, ça va être ça.
J'avais vu Adam Newman de WeWork qui avait essayé d'ouvrir une école aussi. Ça
a mal fini, son histoire.
Toute l'histoire d'Adam Newman a mal fini.
Dominique, Louis-François, Anne, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Bienvenue pour la prochaine saison.
Merci.
Merci.
Carlo, merci de toujours être là, fidèle au poste.
Toujours
en
là.
Fait, du pilote des dérangeants au pilote de la saison 6, on est ensemble. Et donc, on se voit déjà la semaine prochaine pour un prochain épisode et grandes nouveautés également qu'on annonce en scoop. On n'est plus juste à 13 épisodes par saison, mais maintenant à 26. Donc, un par semaine, vous allez pouvoir nous avoir dans vos oreilles ou dans votre écran. Prochain épisode, Caroline Néron, où est-ce que le thème va être rebondir d'un feu. Merci beaucoup à tous et on se voit la semaine prochaine.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!